Ainsi donc aux échos avec les journées mondiales de la jeunesse catholique qui ont lieu en ce moment, j'ai voulu réfléchir sur ce thème qui était celui de l'homélie du pape, disant « Je vous envoie en mission, vous serez mes témoins ». Cet envoi en mission des disciples considérés comme devant aller parcourir le monde pour être les témoins de l'Évangile, cela se trouve dans l'Évangile lui-même, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10 et dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Là, on voit Jésus qui envoie les disciples en mission et il leur donne un certain nombre de prescriptions. D'abord, il leur dit deux choses, de prêcher la bonne nouvelle du royaume et aussi de guérir les malades. Bon, ça, admettons. Et puis, il y a des tas de conditions diverses assez bizarres où il dit « Ne prenez ni bourse ni argent, ne prenez pas de bâton, n'ayez pas de sandales, ni de tunique, etc. Entrez dans une maison, si on vous rejette, secouez la poussière de vos pieds. » Il y a des tas de petits détails qui, évidemment, m'intéressent parce que je me suis demandé ce que tout ça pouvait vouloir dire. Alors que le chrétien soit envoyé en mission dans ce monde, a priori, je n'ai pas de problème là-dessus. D'accord, le chrétien, oui, est effectivement missionnaire dans ce monde. Il n'est pas appelé à se retirer du monde, mais à être dans le monde, un témoin de la bonne nouvelle et pour agir dans le sens de l'Évangile. Admettons que le chrétien soit missionnaire, mais en fait, pourquoi faire ? Dans quel but ? Et comment doit-il se considérer comme missionnaire ? C'est cela que je voulais étudier. Alors, dans quel but ? Ça dépend un petit peu. Je crois que dans certains cas, quand les prédicateurs invitent leurs fidèles à être missionnaires, c'est en fait dans l'idée que l'Église, étant donné que l'Église se délite et perd des fidèles, ben on dit aux quelques-uns qui restent, ce serait pas mal que vous puissiez recruter un petit peu. Et donc je pense qu'il y a parfois un aspect un peu utilitaire à cette prédication d'envoi en mission qui est uniquement dans le seul but de l'intérêt de l'Église et que l'Église ne disparaisse pas, mais qu'elle croisse. Je ne critique pas cette position-là. Il est possible que même elle ait déjà été vraie du temps de Jésus. Jésus prêche la parole et il fallait bien ensuite que cette parole se diffuse et donc que les disciples soient missionnaires. Donc, admettons, je ne critique pas. Mais j'avoue que je suis un peu gêné par le côté intéressé de l'affaire, c'est-à-dire de faire de tous les disciples, de tous les chrétiens, des sortes d'agents commerciaux. On pourrait aussi leur mettre des objectifs, comme dans les grandes entreprises. Alors vous avez converti combien de personnes? Combien de personnes avez-vous fait venir au culte? Ça ne me convient pas beaucoup. Et j'aime mieux considérer que si le chrétien est missionnaire dans le monde, c'est d'une façon totalement désintéressée et en fait fondamentalement naturelle. Parce que le croyant n'est pas missionnaire dans le but de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de rameuter des nouveaux croyants, mais je pense que le croyant est missionnaire par une sorte de débordement de joie, si vous voulez. C'est-à-dire que si vraiment il y a dans cette parole une nouvelle qui est une bonne nouvelle et qui crée en moi de l'enthousiasme, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est d'aller dire « mais il faut que je le dise à mes meilleurs amis, il faut que je partage cette bonne nouvelle ». Quand on a une joie débordante, on ne peut pas la garder pour soi. Et donc je pense que l'attitude finalement missionnaire du croyant ne peut venir que d'un débordement intérieur, d'une conviction, d'un enthousiasme et d'une joie intérieure qui fait qu'on ne peut que la partager. En tout cas, c'est... Bon, chacun le fait à sa manière là où il est, mais c'est la manière avec laquelle moi-même je prêche. Je ne cherche pas à convertir qui que ce soit, mais simplement je suis là et je veux dire à mes meilleurs amis ce qui me motive, ce qui m'enthousiasme, ce qui me plaît, ce qui me fait vivre, et je veux le partager avec d'autres. Alors chacun le fait à sa manière, avec son talent, et on va voir tout à l'heure les modalités que suggère le Christ et qui sont assez intéressantes. Mais je crois que c'est le fait que le chrétien soit missionnaire, j'aime mieux l'entendre comme ça, que comme une sorte d'injonction morale qu'on rajouterait en plus, en disant « je vous ai prêché l'Évangile, maintenant vous devez être missionnaire ». Parce que cette injonction morale, d'abord, je crois qu'on ne peut rien faire de vraiment bien par devoir, où on fait les choses avec enthousiasme et naturel et conviction, où il vaut mieux ne pas les faire, enfin, sauf pour payer ses impôts ou faire ses devoirs matériels. Mais dans ces domaines-là, je ne pense pas que de rajouter un devoir moral aux croyants soit une bonne chose. D'autant plus que l'idée d'ajouter ce devoir de mission comme un commandement moral ne risque qu'une chose, c'est de culpabiliser les gens. Parce que j'entends ce qu'on me dit, vous devez être missionnaire, prêcher la parole et guérir les malades. Et je me dis, oui, mais moi, Seigneur, je prêche pas grand-chose et je ne guéris personne, donc je suis un sous-chrétien, enfin, je fais pas du tout ce que je devrais, donc du coup, je me sens coupable, mauvais et tout à fait à côté de la plaque. Et je ne crois pas non plus que ce soit une bonne chose que de culpabiliser les gens et de les rabaisser. Et donc, si c'est le seul moyen, si on veut que les gens soient missionnaires, eh bien, il faut que ce soit pour eux une bonne nouvelle. Et si nous voulons nous-mêmes développer notre capacité missionnaire, ce n'est pas en s'imposant des devoirs, c'est en essayant de comprendre déjà en soi en quoi est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle, et de comprendre qu'il y a dans une merveille dans ce message du Christ, le fait d'être accepté dans ce monde, le fait d'être libéré, le fait d'être aimé, le fait d'être pardonné, et de se dire, dans un monde qui ne cesse pas de me juger, de me condamner, de me combattre, de me culpabiliser, qu'il y ait une instance quelque part dans ma foi, ou dans ma relation à Dieu, ou dans ma lecture de l'Évangile, il y a une instance là qui justement arrête de me mettre des objectifs inatteignables, et loin de me culpabiliser, loin de me condamner, loin de me rejeter, m'accepte comme je suis, m'aime et me pardonne et me prend avec attention, respect et douceur. Et ça, c'est quand même une vraie merveille et je pense que c'est important. C'est d'ailleurs ce que disait le pape, j'ai écouté son homélie d'ouverture au JMJ, vous disais-je, où il était dans cette même lignée, en quelque sorte, lorsqu'il rattachait cette invitation à être missionnaire à cette parole du prophète Ésaïe, qui dit, Dieu dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et il disait, voilà, c'est-à-dire que comprenez d'abord que vous comptez, vous êtes quelqu'un qui est aimé, accepté en tant que tel, et pas un numéro parmi d'autres. Mais revenons au texte, parce qu'un pasteur, tout ce qu'il sait faire, c'est pas parler en l'air, mais c'est revenir au texte biblique lui-même et se dire, que signifie ce texte de Luc 9 ou Matthieu 10 de l'envoi des 12 en mission par Jésus? Alors là, je suis un peu embêté, parce que est-ce que par hasard nous ne ferions pas trop souvent de ce texte une récupération malhonnête en disant donc soyez disciples. Et sais-tu, là, ce texte pose des questions théologiques considérables, c'est-à-dire que les théologiens débattent sur ces textes d'envoi en mission d'une façon infinie, et en particulier sur la question pourquoi Jésus, dit-il, n'allait pas chez les païens ni chez les samaritains, et quelle est cette histoire, ne prenez pas de sandales, ni de bâtons, ni de machin, et puis pourquoi ces histoires de rentrer dans une maison, n'en sortez pas, secouez la poussière de vos pieds. Toute cette procédure est très compliquée. L'hypothèse qui prédomine aujourd'hui chez les commentateurs ne me plaît pas du tout, mais je vous la livre par honnêteté. Les commentateurs, les exégètes disent qu'en fait cet envoi en mission des discours de Jésus est dans le cadre d'un discours apocalyptique, c'est-à-dire que Jésus pensait que la fin du monde serait imminente, et donc il pensait que le royaume de Dieu s'imposerait comme ça dans les jours qui viennent, et à ce moment-là ça expliquerait pourquoi il aurait dit aux disciples, « Ne prenez ni or, ni bâton, ni de tunique. » Sous-entendu, vous n'avez, si la fin du monde, c'est dans 3 jours ou dans 1 semaine, vous n'avez pas besoin de 2 tuniques, ni d'or, ni d'argent. Et donc, il y a une sorte d'imminence, si vous voulez, de la fin du monde. Et Jésus aurait simplement envoyé ses disciples pour annoncer que le royaume des, dieux, des cieux est proche, c'est-à-dire que la fin du monde, c'est pour tout de suite. Bon, c'est une hypothèse, effectivement, qui expliquerait un certain nombre de choses de ce texte, mais il y a pire. Il y a pire, c'est quelqu'un pourtant pour qui j'ai la plus grande admiration, qui est Albert Schweitzer, qui lui allait encore plus loin, en disant, non seulement Jésus croyait dans la fin du monde imminente, mais en plus, il n'arrête pas de se dire qu'il va falloir qu'il la provoque, autrement dit. Alors, il arrive en disant « Je suis le Messie », rien ne se passe. Alors, Jésus se dit, il relit l'Écriture, il dit « Ah oui, oui, normalement, pour que le Messie vienne, il faut que les aveugles voient que les boiteux marchent et que les Juifs se convertissent. » Il dit « Voilà ce qui manquait pour que le royaume des cieux vienne. » Alors Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Guérissez les aveugles, faites marcher les boiteux, annoncez la bonne nouvelle et convertissez les Juifs. » Les disciples reviennent et ils disent « C'était super, on a fait des choses formidables, c'était top, toujours pas de royaume de Dieu. » Alors Jésus reprend sa Bible et il dit « Ah mais oui, j'ai oublié un truc, il faut que les païens se convertissent. » Alors Jésus renvoie ses disciples une deuxième fois en leur disant « Cette fois, convertissez les païens. » Les disciples repartent, deuxième envoi en mission vers les païens cette fois, et ils reviennent vers Jésus en disant « C'était super, on a passé des bons moments, c'était merveilleux, on a parlé à plein de gens. » Toujours pas de royaume de Dieu. Alors, d'après Schweitzer, Jésus se dit, bon, pour que Dieu envoie enfin son royaume, il n'y a qu'une solution, il faut que le Messie meure. Et comme ça, Dieu enverra des légions d'anges. Et donc Jésus programme un petit peu sa mise à mort et sa passion. Il meurt, il va sur la croix, toujours pas de légions d'anges, désespoir commun, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à ce moment-là, donc gros problème, parce que le royaume de Dieu ne vient pas. Alors bon, est-ce que ces explications sont historiquement valides? Peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour nous, elles n'ont absolument aucun intérêt. Parce que nous ne sommes pas dans une situation totalement apocalyptique, et par conséquent, ça ne va pas. Et de toute façon, même les premiers chrétiens, si les évangiles ont été finis d'écrire vers l'année 70-80, à ce moment-là, on ne croyait déjà plus à la venue imminente du royaume de Dieu. Et donc, à ce moment-là, même quand les évangiles ont été écrits, ces hypothèses, par nos historiens qui pensent tout savoir, ne fonctionnent pas et ne donnent pas de sens au texte. Et donc, ça veut dire que, évidemment, même du temps des évangiles, on a réinterprété ces textes autrement que comme le veulent les historiens. Et par conséquent, il faut reprendre cette histoire et se dire, Jésus envoie ses disciples en mission, et donc ses disciples, c'est un peu nous, essayons de voir de quelle manière il est dans ce monde comme témoin de Jésus-Christ et pourquoi, de quelle façon. Du coup, je reprends mon texte, et je me dis, voyons un petit peu ce que Jésus demande à ses disciples. Il leur dit 2 choses. Il leur dit, annoncez la bonne nouvelle et guérissez les malades. Ah, bah tiens, ça c'est comme le Christ. Hein ? Oui, Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il proclamait l'évangile et il guérissait les malades. Donc, première chose, c'est qu'il demande aux chrétiens d'avoir un peu dans le monde le rôle que Jésus avait. Alors, autrement dit, ça veut dire aussi que tout ce que vous attendriez que le Christ fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est ma nouvelle version de la règle d'or. Vous savez, on dit parfois, tout ce que vous voudriez que les gens vous fassent, faites-le de même pour eux. Ça, c'est compliqué, mais je dirais, tout ce que vous voudriez que Dieu fasse, eh bien, considérez-vous comme acteur de ces dons de Dieu que vous attendez pour vous et pour les autres. Et donc pour ça, c'est très simple. Regardez ce que vous avez demandé à Dieu hier soir dans votre prière quotidienne. Et tout ce que vous avez demandé, eh bien, commencez déjà par vous mettre au boulot. Faites-le pour les autres. Non pas que vous puissiez tout faire, mais le peu que vous ferez sera déjà une façon de faire avancer le royaume. Parce qu'en effet, nous sommes aujourd'hui, les chrétiens, les croyants, sont en quelque sorte le corps du Christ. C'est ce que dit Paul, vous êtes le corps du Christ. Et donc nous sommes les bras agissant concrètement les plus efficaces de Dieu sur la terre. Évidemment que Dieu est à l'œuvre sur la terre, mais Dieu, il fait ce qu'il peut pour guérir les maladies, si vous voulez. Mais en attendant, si vous êtes malade aujourd'hui, ben allez voir un médecin. Et c'est le médecin qui sera la main de Dieu de la guérison. Et si Dieu veut la paix sur la terre, peut-être qu'il travaille pour la paix sur la terre dans les esprits, mais la paix, c'est à l'homme de le faire. Et donc, en fait, c'est nous qui devons mettre en œuvre le plan de Dieu sur terre, et nous sommes invités à continuer l'action du Christ sur la terre. Dans la tradition catholique, puisque nous sommes là dans un discours œcuménique, on dit que le prêtre est un alius Christus, un autre Christ. Et ainsi, on dit que le prêtre a ce rôle, joue le rôle du Christ dans le monde. Je suis d'accord, et dans le cadre de la pensée protestante du sacerdoce universel, je dirais que nous sommes tous des alius Christus, des autres Christ dans le monde. C'est notre vocation. Ensuite, il dit qu'il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle. Et annoncer la bonne nouvelle, ça me plaît, parce que, vous voyez, il ne dit pas « faites le catéchisme ». Il ne dit pas « faites en sorte que les gens croient dans l'Église, dans la Trinité, dans la satisfaction vicaire, dans la procession des hypostases et dans la communication des idiomes ». Par conséquent, il dit simplement « soyez une bonne nouvelle ». Et ça, je trouve que c'est un appel formidable, une vocation formidable, de nous dire « que votre parole dans le monde soit une bonne nouvelle ». Voilà, tout simplement. Et donc, je ne sais pas, quand j'en parle à mes moniteurs, monitrices de catéchisme, je leur dis, écoutez, je ne sais pas ce que vous dites aux enfants, dites ci ou ça, j'en sais rien, mais il faut déjà que pour eux, ce soit une bonne nouvelle. Et si on ressort libéré, joyeux, content, enthousiaste, regonflé en quelque sorte, eh bien, c'est que l'Évangile fonctionne. Et donc, en tant que croyant, si vous voulez témoigner de l'Évangile, ayez une parole joyeuse, libératrice, et il faut que ce que nous disons de Jésus ou du Christ ou de la religion ou de la foi aux autres, ce soit non pas quelque chose qui vient écraser, mettre des devoirs, condamner, culpabiliser, mais au contraire une parole qui libère et qui fasse du bien. Après, sur le contenu, vous verrez, Jésus ne précise pas. Et je dirais que c'est la même chose indépendamment de tout témoignage purement religieux. Nous sommes invités à être, dans ce monde, des messagers de bonnes nouvelles, des porteurs évangiles. Vous savez que évangile, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Bon. Donc, voilà une belle mission pour nous. Que nous soyons dans ce monde, sur les personnes que nous rencontrons et à qui nous parlons, que nous soyons porteurs d'une parole qui soit une bonne nouvelle. Et les gens qui donnent des paroles positives, c'est quand même infiniment plus agréable que les gens qui n'arrêtent pas de vous casser, de vous culpabiliser et de vous dévaloriser. Après, il dit donc annoncer la bonne nouvelle et il dit faites des guérisons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Ça pose problème un peu parce que si vraiment ce qui nous est demandé aux croyants c'est de faire des guérisons miraculeuses, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui cochons les cases. Hein. Quant à ressusciter les morts, j'ai un collègue pasteur à Paris qui prétend avoir ressuscité un mort. Je ne vous dirai pas son nom parce que ce ne serait pas à sa gloire. En fait, non, on ne ressuscite pas de morts et on guérit les malades. Si vous êtes médecin, oui, mais non, ce n'est pas franchement ce que nous savons faire. Et donc, je ne crois pas qu'il faille l'entendre comme un pouvoir miraculeux. Mais il faut revenir à Jésus qui guérissait les malades. Et en fait, quand Jésus guérit les malades, je ne crois pas qu'il faille le comprendre comme un miracle extraordinaire parce qu'il y avait des tas de guérisseurs à l'époque dans la terre d'Israël. Pas simplement Jésus, il y en avait d'autres. On en voit dans l'Évangile des gens qui guérissent, c'était comme ça. Il y avait des guérisseurs. Il y en a encore dans nos campagnes, il y a des rebouteux qui marchent très bien. Je peux même vous donner des adresses d'un paroissien qui guérit les verrues par téléphone. Bon, c'est formidable, ça marche très très bien. Et il y a aussi j'ai un de mes amis qui s'est fait soigner son cheval par un ostéopathe animal par téléphone. Ça a guéri le cheval. Donc, il se passe des tas de choses comme ça. Et en fait, Jésus était guérisseur, donc très bien, pas besoin de faire appel au Saint-Esprit pour ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça veut dire que Jésus savait soigner, ok, mais il ne se contentait pas de prêcher une bonne parole. Quand il voyait un paralytique, il aurait pu lui dire « Mais mon ami, ce n'est pas grave, certes tu es handicapé, mais tu sais, l'important c'est de marcher dans son cœur et nous pouvons être intérieurement dans une démarche dynamique qui nous permet d'avancer et de voir des choses infiniment mieux que quelqu'un qui aurait toute sa santé mais serait psychiquement ou spirituellement affecté. » Non, il ne disait pas que ça. Certes, il le disait en disant « La santé physique n'est pas tout. » Mais il disait, bon, tu souffres, je peux t'aider, eh bien je t'aide. C'est-à-dire que Jésus se préoccupait aussi de la dimension matérielle de ses contemporains. Et donc je le comprends comme ça, en disant, nous ne sommes pas invités simplement à être des beaux parleurs dans ce monde, mais nous sommes invités, certes, à tenir des bonnes paroles, mais aussi à agir concrètement pour faire du bien aux gens. Voilà. Et que donc, on ne peut pas séparer, si vous voulez, la parole de l'action. On ne peut pas séparer la prière de l'engagement dans le monde. Jésus ne dit pas à ses disciples, allez prier sur le sommet du mont Tabor et puis prier pour le monde. Il dit, allez dans le monde et puis là, vous parlez aux gens, vous leur dites une bonne nouvelle et si vous pouvez les guérir, vous les guérissez. Il y a toujours ces deux dimensions qu'il faut tenir absolument. C'est vrai pour nos paroisses où nous disons que une paroisse comme la nôtre n'est pas simplement une association cultuelle qui prêche l'Évangile, mais est toujours associée à une association diaconale, c'est-à-dire à un service d'entraide. On ne peut pas imaginer la prédication de la parole sans une action concrète dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment une conviction très forte, et je crois que pour nous il en est de même. Et donc parlez bien, dites une bonne nouvelle, et tout ce que vous pourrez faire concrètement pour soulager l'autre, faites-le, c'est très simple. Continuons. Après, plus compliqué, il dit « Ne prenez ni or, ni bâton, ni sandales, ni deux tuniques. » Ah, alors là, j'ai une explication que je vous propose. C'est que, en fait, le bâton, les tuniques, la ceinture, etc., c'était l'attirail normal dans le judaïsme du pèlerin se rendant à Jérusalem. En effet, le judaïsme à l'époque était une religion très centrée sur les pèlerinages et les juifs devaient régulièrement faire des pèlerinages jusqu'à Jérusalem, lieu saint par excellence et lieu du temple. Et donc la religion c'était ça, de faire des pèlerinages dans un lieu saint. Et Jésus tout à coup dit, écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que vous fassiez un pèlerinage spectaculaire avec le bâton du pèlerin, avec le gros sac, avec les tuniques, les machins, etc. C'est pas ça la religion. La religion, c'est que sans artifice, sans rien, vous allez vers l'autre et celui que vous rencontrez, c'est lui le but de votre pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est pas d'aller à Jérusalem, de monter sur la montagne sacrée, d'aller ici ou là. Le pèlerinage, c'est simplement d'aller vers l'autre. Et l'autre est un but de pèlerinage absolu, sans qu'il y ait besoin de complications. Et voilà, en effet, je pense que du coup, la religion de Jésus est à la fois une religion qui, je dirais, se libère du ritualisme, en quelque sorte, et qui considère que le but, ce n'est pas de faire des rites, des rassemblements, des pèlerinages, mais simplement d'aller vers l'autre et de témoigner là où l'on est. Et de le faire, je dirais, avec simplicité, sans calcul, sans chichi, sans rien. Vous allez vers les gens, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme de théologie, pas besoin d'avoir de Bible à la main, pas besoin d'avoir un attirail de prière. Vous allez vers l'autre, bonne nouvelle, et guérissez, c'est tout, c'est simple. Donc, autrement dit, Jésus propose quelque chose de très simple. Et il simplifie encore plus en disant, n'allez pas vers les Samaritains, parce qu'ils s'engueulaient avec les Samaritains, c'était l'horreur. Et n'allez pas vers les païens. Pourquoi ? Parce qu'il dit, écoutez, cherchez pas les problèmes, mais allez vers les gens avec qui vous vous entendez bien. Voilà. Donc voyez, Jésus, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais peur que cet envoi en mission mette la barre très haute. En fait, j'ai l'impression qu'il la met tout à fait à notre portée. Et il dit, vous n'avez même pas besoin d'aller vous bagarrer avec ceux qui ne vous aiment pas, avec ceux qui ne vous comprennent pas, avec vos détracteurs, avec ceux qui vous contredisent, mais allez vers ceux qui vous comprennent, tout simplement. Ne vous compliquez pas la vie, parce que non seulement la religion n'est pas du ritualisme, mais la religion n'est même pas une bagarre héroïque contre l'impiété dans le monde, contre l'injustice dans le monde, contre le manque de foi. Mais simplement, il s'agit de... On n'est pas toujours obligé, vous disais-je, de se battre avec les autres, ou d'essayer de convaincre ceux qui ne vous convainquent pas, mais simplement, on peut espérer vivre avec simplicité auprès de ceux avec qui ça fonctionne. Donc, parler à ceux qui vous écoutent. Puis ceux qui ne vous écoutent pas, bon, écoutez, alors là, il dit, si on ne vous reçoit pas dans une maison, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Cette apologie de la fuite, je la trouve absolument formidable, parce que là aussi, ça me donne une grande liberté et je crois qu'il y a une grande sagesse. En disant, vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le combat, vous n'êtes pas obligé de toujours chercher à avoir raison, de toujours être victorieux de tout ça, mais s'il y a un problème dans ce domaine-là, écoutez, laissez de côté, laissez faire, et secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Et donc, on pourrait le dire même dans un sens très simple, éviter les gens toxiques et aller vers ceux qui vous font du bien. Et si jamais vous êtes en butte à une injustice, laissez tomber et allez là où vous êtes bien, parce qu'on ne peut pas sans arrêt dans sa vie toujours être sans arrêt en contradiction, en combat, en réclamation de justice, que justice soit faite, que soit rendue, que soit reconnue. Laissez un petit peu tomber tout ça, secouez la poussière de vos pieds, allez voir ailleurs et allez dans une maison où vous êtes bien. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il dit, quand vous êtes entré dans une maison, dites, la paix soit sur vous. Si la maison veut bien de votre paix, alors restez-y. Si elle n'en veut pas, que votre paix retourne à vous. Merveilleux, ça. Je trouve ça formidable. Parce qu'effectivement, le but de notre vie, c'est la paix. Mais pour être en paix avec quelqu'un, il faut être deux pour être en paix. Et parfois, l'autre n'en veut pas. Et donc, il dit simplement, vous, soyez en message de paix. Si l'autre en veut, c'est génial, vous avez gagné la paix. S'il n'en veut pas, écoutez, allez ailleurs, dans une maison où vous aurez la paix. Mais ne faites pas la guerre. Voilà. Et ça, je trouve ça assez étonnant. C'est d'ailleurs ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, quand il dit, ce qui est très réaliste, il dit, soyez en paix avec tous les hommes. Enfin, il dit plutôt, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, il dit, on ne peut pas tout maîtriser. Et donc, autant que cela dépend de vous, soyez en paix, essayez la paix. Si ça marche, vous avez gagné. Si ça ne marche pas, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Moi, je trouve ça vraiment très, très libérateur. Et puis après, il dit, entrez dans une maison, puis n'essayez pas d'en trouver une meilleure, restez là où vous êtes. Oui, parce que il n'y a pas de calcul à faire dans cette démarche qu'est la nôtre non plus. Il n'y a pas non plus de calcul de rentabilité. Et si vous êtes avec quelqu'un, ne vous dites pas, mais peut-être que j'aurais mieux ailleurs. Ou si j'agis pour cette personne, est-ce que cette personne en est vraiment digne? Est-ce qu'elle en fera bon usage? Est-ce que je ne ferais pas mieux de m'occuper de tel autre? Non, faites le bien là où vous êtes. Ne courez pas tous les lièvres en même temps, et simplement faites le bien là où vous êtes, sans calcul, sans attendre de résultats ou de quoi que ce soit, mais avec la plus grande simplicité. Et après, quand il dit, quand vous allez chez quelqu'un, habitez chez lui, puis il vous donnera à manger, autrement dit. Ce n'est pas une invitation à jouer les pique-assiettes, mais là encore, c'est une allusion à l'Ancien Testament, puisque c'était comme ça que devaient vivre les prêtres, c'est-à-dire la tribu des Lévites. Les Lévites ne devaient pas posséder d'or ou d'argent, mais ils vivaient finalement grâce à la générosité des autres tribus. parce que le Lévite ne devait pas s'enrichir, mais il devait accepter avec naturel et reconnaissance le fait que, bah, du coup, ce soit les autres qui contribuent à leur vie. C'est pas... les pasteurs vivent un peu comme ça, je le reconnais. C'est pas pour le croyant non engagé, c'est pas une invitation à profiter de l'hospitalité des gens. Mais c'est simplement pour dire, il invite les gens à avoir, à se considérer soi-même comme prêtre, en fait. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sacerdoce universel. Nous sommes tous prêtres. Et donc, c'est une invitation à se dire, vous tous, comportez-vous dans ce monde comme un prêtre. C'est le sacerdoce universel. Prêtre pour soi et pour les autres. Pour soi, parce que si je suis mon propre prêtre, je gère ma relation à Dieu, je suis responsable de ma relation à Dieu et je n'ai personne qui m'impose des modes relationnels ou qui me rappelle sans arrêt « tu devrais venir au culte » ou « tu devrais faire telle chose ». Alors c'est merveilleux puisqu'il y a ce contact direct, si vous voulez, avec Dieu et en même temps ça impose une responsabilité parce que si je suis prêtre avec moi-même et que je me laisse faire n'importe quoi, je suis un mauvais prêtre, voilà. Et donc il faut aussi savoir... se donner à soi-même la discipline spirituelle qu'il convient. Et puis surtout, je suis prêtre aussi des autres, et quand je suis en relation avec quelqu'un, je suis pour lui prêtre. Pourquoi ? Parce que le prêtre est celui qui met en relation avec Dieu, alors ça c'est compliqué, on fait ce qu'on peut, mais je dirais surtout dans l'Ancien Testament, le prêtre gérait quelque chose de très important, qui est la culpabilité. Tout tournait autour de la question du pardon, les sacrifices, les rites, les machins, etc. Et donc peut-être que si je suis prêtre par rapport à l'autre, c'est que je dois être, ma mission première, c'est de dire le pardon de Dieu, en fait, et d'enlever les obstacles qu'il y a entre l'autre et Dieu lui-même, entre l'autre et l'absolu et l'universel, ou l'autre et les autres. Et cette mission de donner le pardon à la place de Dieu, on la trouve... à plusieurs endroits dans l'Évangile où Jésus nous dit « je vous invite à pardonner, et si vous pardonnez, Dieu pardonne ». Et donc, donnez le pardon, et ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Donc voilà notre mission, libérer de la culpabilité, déculpabiliser, libérer, soulager, et être justement cette personne qui met en relation avec la source de la vie. Dire le pardon, voilà ce que nous sommes invités à faire, à le vivre et à en être convaincu, la bonne nouvelle, et à en témoigner, et pas seulement pour son propre pardon à soi, mais aussi à dire et à rappeler pour insister sur le fait qu'il y a un Dieu qui pardonne infiniment, que ce Dieu s'approche de nous, qu'il est là, qu'il n'y a pas de distance à faire, de travail, d'héroïsme pour découvrir Dieu, mais que Dieu est là tout près de nous et qu'il se donne. Et que Dieu est présent devant chacun de nous, et que chacun peut se présenter à lui en confiance, la tête haute, comme un enfant aimé, respecté, considéré, capable lui-même d'aller vers les autres pour être porteur d'une bonne nouvelle, et pour agir dans ce monde comme une force de paix, d'amour et de tranquillité. Amen.